Bonjour, merci d'être là. Donc aujourd'hui, ça, il faut vraiment parler de près du micro. La rencontre porte sur les machines alchimiques. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Mauméjean, hein, donc, qui est un auteur français qui a écrit de nombreux livres, qui est aussi un collègue philosophe, puisque je suis moi-même philosophe. Et donc il a écrit de nombreux livres de science-fiction, et je pense qu'il en parlera d'un certain nombre, science-fiction, fantasy, au cours de la rencontre. Et à ma gauche, Lev Grossman, qui est donc un auteur américain, qui est notamment l'auteur de la série Les Magiciens, The Magicians. Voilà. Donc je vais commencer donc par une première question. Je vais peut-être me reculer un peu, voilà. Donc le titre de la rencontre, c'est les machines alchimiques. Donc j'aimerais savoir comment vous entendez cette idée de machine alchimique. Qu'est-ce que c'est pour vous une machine alchimique ? Qui veut commencer ? Allez. Xavier.
Bah, les machines alchimiques, elles existent, on m'entend là.
Voilà, il faut parler tout près.
Les machines alchimiques existent en tant que telles. Il y a dès le 16e siècle, il y a des projets extrêmement élaborés. Je pense à deux projets, celui de John Dee, le psychomancien de la reine Elisabeth I, qui a défini notamment la notion d'empire britannique. John Dee a travaillé sur avec le cartographe Mercator sur une machine qui théorique bien sûr qui permettrait de faire la carte de cartographier tout simplement les rêves et les souvenirs. Donc déjà c'est un projet qui est ambitieux et qui littérairement est passionnant. Et plus fort encore, à la même époque, à 20 ans d'écart, il y a un barré complet en Italie qui s'appelle Giulio Camino, qui met au point une sorte de théâtre, un amphithéâtre, divisé en 49 sections, 7 fois 7, donc 7 chambres par 7 gradins, où chaque gradin contient des objets particuliers. Des statues, des toiles, donc des peintures, etc. Chaque combinaison d'éléments devant provoquer des états de conscience chez le spectateur permettant soit de voyager mentalement à travers le monde tel qu'il existe, soit de voyager dans des univers inventés. Ça, c'est en 1552 avec cette idée qui est héritée de l'art de la mémoire de la Renaissance, enfin qui est contemporain de l'art de la mémoire de la Renaissance, qui est qu'il existe des passerelles entre l'univers extérieur, le monde, et l'univers mental, la mémoire, les souvenirs, le rêve. Donc par machine, on a vraiment, qu'elle soit théorique comme dans le cas de John Dee, ou effective, parce qu'il y a eu, il y a bien eu une construction d'ailleurs. François Ier avait financé une partie du théâtre de Giulio Camino. Il existe une volonté de mettre au point des machines permettant de joindre le réel extérieur tel qu'il existe, l'espace dans lequel on évolue, et des espaces plus ou moins fantasmatiques. Mais vous avez aussi, puis après j'arrêterai de parler, mais vous avez aussi un projet hérité lui aussi de Cicéron qui a été mis au point à la Renaissance qui s'appelle et qui est fascinant c'est Alberti, c'est des architectes dans la lignée d'Alberti qui ont mis ça au point, qui s'appelle l'architecture des coïncidences et qui consiste à construire des maisons dans lesquelles du rez-de-chaussée à la hauteur de la maison, c'est italien ça. On construit des minuscules statuettes cachées dans les motifs où on fait toutes les matières, le marbre, tout ce qui est utilisé, même les accidents, les défauts dans la pierre, etc., sont censés contrôler l'esprit des habitants de la maison de la naissance à la mort, comme s'il y avait une sorte de programmation intérieure de la maison qui permet de provoquer des coups de chance ou d'infléchir les pensées de l'habitant de la maison. Et je trouve que aussi bien chez John Dee que chez Camino, que chez les architectes héritiers d'Alberti dans le cas de l'architecture des coïncidences, ont justement en commun cette idée de travailler sur la matière humaine, de la façonner de manière à élargir son champ de conscience et de permettre d'établir des passerelles entre le réel extérieur, enfin, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Enfin, est-ce que vous avez la même conception de la machine alchimique que celle de Xavier Mauméjean ?
I should start by saying that as a writer of fantasy, alchemy is a difficult topic, in many ways a problematical topic, for several reasons.
Alors tout d'abord, je devrais commencer probablement par vous dire que, en tant qu'auteur de fantasy, pour moi l'alchimie est un sujet très difficile et à la fois problématique.
I think in part that's because alchemy, when alchemy kind of gave way to formal science in the 18th century, I think that there were there was a real attempt to discredit it, and more than discredit it, erase it from history.
Alors en partie probablement parce que quand l'alchimie s'est éloignée des sciences considérées comme nobles autour du XVIIIe siècle, il y avait vraiment une volonté là non seulement de discréditer mais aussi de l'effacer.
We forget, or at least I forget, that a large part, possibly the greater part of the work of a guy like Isaac Newton, who we know from calculus and physics, or Tycho Brahe, the astronomer, a large part of their work was alchemy.
Et j'oublie, peut-être vous aussi, qu'une large partie des travaux de personnes comme Newton, que l'on connaît surtout pour le calcul ou pour la physique, et également de personnes comme Tycho Brahe, ont vraiment eu un important travail qui tourne autour de l'alchimie.
So sort of in the popular mind, alchemy is associated, one, with failure, with the pursuit of goals like, for example, the transmutation of elements into gold, which is now possible, by the way, but the cost is so much greater than the gold you get out of it that nobody bothers to do it. And also eternal life, the universal solvent, ideas like that, which were pursued but never completed.
Alors dans les esprits, dans l'imaginaire collectif, l'alchimie est associée à plusieurs choses. Tout d'abord à l'échec, puisque comme on le sait peut-être, la poursuite de la transmutation et de la transformation en or avait échoué. Enfin aujourd'hui c'est possible, mais sauf qu'en fait ça coûte tellement cher que ça vous coûterait moins cher d'avoir effectivement de l'or. Et puis deuxièmement, sur l'idée de la vie éternelle et donc du solvant absolu qui était également quelque chose qui avait été poursuivi par les gens alchimistes.
But in addition to that, the alchemical worldview is a very organic one. It sees the world in a whole complete system, and unites things that we now prefer to keep separate, chief among them, science on the one hand, and magic on the other.
Et en plus de tout ça, le point de vue alchimique ou la perception alchimique du monde est beaucoup plus organique et perçoit le monde d'une manière que nous ne percevons pas, d'un système complet qui met ensemble ou qui réunifie des aspects qu'on a tendance aujourd'hui à séparer, comme par exemple la science et la magie.
Alchemy was an extraordinarily sophisticated, powerful, important field of study which contributed, the foundations of modern science. But when you get to writers like Tolkien or C.S. Lewis, the founders of the modern fantasy novel tradition that people like me write in, they were so violently in reaction to technology and science and all that way of thinking that they really split their magic off from science and technology, and it became this very sort of organic, earthbound, mystical, spiritual thing, which it's very hard now for us to undo that work and connect it back to science in the way that these things were all connected for the alchemists.
Et l'alchimie est quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement compliqué, sophistiqué, et des gens, des auteurs comme Tolkien ou C.S. Lewis qui ont vraiment fondé en fait la littérature fantasy moderne, et dont moi j'hérite nécessairement en écrivant aujourd'hui, étaient si violemment en réaction contre la technologie et la science qu'en fait ils avaient tendance à inscrire leur fantasy et à différencier leur magie de ce que la technologie ou la science avait pu avoir comme héritage. Et en fait, en raccordant leur magie à quelque chose d'extrêmement organique, de spirituel, de raccorder à la terre, ils ont déconnecté si fortement les deux aspects que c'est très difficile pour nous aujourd'hui de reconcevoir une unité entre les deux.
Merci d'avoir rappelé si précisément ce qu'est l'alchimie. Ça faisait partie des questions que je voulais poser, et même l'histoire de l'alchimie. Et alors du coup, ça me permet de reposer une question à Xavier Mauméjean. Si j'ai bien compris en quoi les machines que vous avez décrites étaient des machines, j'ai moins compris en quoi c'était des machines alchimiques. Est-ce que vous pourriez repréciser en quoi les machines que vous avez décrites étaient alchimiques ?
Alors, déjà, l'alchimie ne doit pas être considérée comme l'opposé de la science, ce qui serait absurde, ce serait comme opposer la religion à la science. Par exemple, l'alchimie, pour aller très concrètement, pose déjà des éléments qui vont être repris tels quels dans la science, qui sont par exemple la stabilité des lois. C'est-à-dire que dans l'alchimie, on trouve ça par exemple chez Agrippa, à telle cause, tel effet, si vous faites tel type de combinaison expérimentale, vous obtiendrez forcément le même effet. Donc déjà, il y a cette idée de permanence dans l'activité théorique et l'application expérimentale dans l'alchimie, qui sont des principes repris dans la science. Et ensuite, il y a cette idée d'une permanence et d'un savoir progressif, d'un savoir qui peut être augmenté dans l'alchimie. Et ça aussi, Lev Grossman rappelait à juste titre que, en fait, Newton a consacré à la science pure quelques années à peine. Enfin, sa capacité créatrice couvre quelques années, Newton. Pour le reste, il a formalisé ses découvertes scientifiques. Et il s'est consacré à l'alchimie. Il faut savoir aussi que Newton, par exemple, et avant lui d'autres grands personnages qui ont fondé le Royal College of Science, étaient des alchimistes, notamment à l'époque d'Elisabethin, un personnage qui est fascinant, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Lord Strange, qui a parfaitement existé, lui, et qui dirigeait ce qu'on a appelé l'école de la nuit, et qui était un collège d'alchimistes qui sont à l'origine de la création de l'Académie britannique des sciences. Donc il y a une continuité. Alors maintenant, ces machines, justement, sont de véritables machines, au moins pour celle de Camino, parce qu'elles reposent sur ces bases qui sont communes à l'alchimie et à la science en général, qui sont l'application de règles, de lois et de principes qui sont permanents. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chaos. Si vous faites tel protocole expérimental, vous obtiendrez tel résultat qu'on peut répéter. Il y a cette volonté aussi, notamment dans la machine de Camino ou dans l'architecture des coïncidences, de pouvoir à la fois comprendre le monde et d'agir sur lui. Donc, en fait, il y a une sorte de parenté évidente dans la nécessité d'avoir le couple théorie-expérience commun, aussi bien dans l'alchimie que dans la science, au sens général, sachant que ce ne sont pas deux moments successifs, mais comme le rappelait très bien Lev Grossman, ce sont des choses qui ont pu coexister chez certains. On parle toujours de Newton, on peut parler aussi de son concurrent Leibniz, qui était tout autant intéressé par des procédés qui ne sont pas directement scientifiques, je pense à son utilisation du yi-king, par exemple, chez Leibniz, qui sont aussi des modes parallèles, des modes en biais d'agir sur le réel tout autant que la science. Voilà.
Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais savoir, alors peut-être en commençant par Lev Grossman, s'il y a des machines alchimiques qui apparaissent dans vos œuvres. Et si oui, que sont ces machines?
There's a great fear is too strong a word, there's a real challenge that contemporary fantasy writers face in integrating machinery and technology and science into a world that also has magic in it. Harry Potter, you'll notice he does not have a cell phone, nor does he use the internet, and there's no specific reason for that. I think there are cases in which a cell phone would have been very useful to Harry, you kind of sort of can't have them in the same frame. I'm leading up to something. Why don't you?
Alors il y a un vrai challenge, le mot peur serait un peu trop fort pour ça, mais il y a un vrai challenge qui se pose pour des auteurs contemporains de fantasy dans le fait d'intégrer de la machinerie, de la technologie ou de la science dans un monde dans lequel la magie est présente. Et je pense que vous le voyez aussi, notamment chez Harry Potter, il n'a pas de téléphone portable, il n'utilise pas Internet, il n'y a pas de raison particulière à ça, même si on peut tous tomber d'accord sur le fait qu'avoir un téléphone aurait pu lui rendre service à quelques reprises.
That said, you know, the two things that I noticed about my own work is one, in this respect, the magic it behaves very alchemically in a way in that it's highly consistent, and this is true of Harry Potter and most contemporary fantasy. Spells are very reproducible. You do the same spell, and the same thing happens, unless you screw it up. It's not a matter of beseeching the gods for perhaps a miracle if they're in a good mood and you've behaved well. You're performing an action in order to control the world around you, and if you do it successfully, then you get the result you want. It's a very alchemical idea. As far as machinery goes, there's a lot of clockwork in my work. As it turns out, from a fantasist's point of view, technology stops at the moment of electricity. If you can wind it up, it's okay. It won't conflict with your magic. But you'll find that fantasists and I personally, we draw the line at electricity. That's where the machinery ends.
Alors moi je remarque deux choses à propos de mon travail sur cet aspect. D'une part, c'est que pour moi la magie a un fonctionnement quasiment alchimiste, comme il a été décrit, avec l'idée d'une consistance, d'une permanence, c'est-à-dire que un sort est reproductible, on peut lancer le même sort et obtenir le même effet systématiquement, enfin sauf si on se rate. C'est pas comme si on devait demander en fait une sorte de permission divine pour obtenir un miracle magique. L'idée de la magie est en fait qu'elle corresponde à un acte spécifique que l'on peut reproduire et qui donc donnerait un certain nombre de résultats identiques à chaque fois. Et cette idée, cette permanence-là, est une idée alchimiste en soi. D'autre part, il y a en fait pas mal de travail d'horlogerie ou d'apparition d'horloges ou de fonctionnement d'horlogerie dans mon œuvre. Et en fait, je pense que la limite que l'on se pose pas mal en tant qu'auteur de fantasy, c'est l'apparition de l'électricité. Pour nous, c'est d'une certaine manière là où la machine s'arrête, là où la technologie s'arrête. Parce que quand l'électricité arrive, effectivement, il y a un autre fonctionnement qui se met en place. En tout cas, je pense que pour moi, c'est à ce moment-là que se place la limite entre machinerie et ensuite technologie.
Merci. Alors Xavier, est-ce que dans votre œuvre, il y a des machines qui sont des machines alchimiques ?
Alors, pas pour l'instant, mais j'ai effectivement un projet théoriquement assez avancé avec le Bélial, qui serait en fait, j'aimerais imaginer que après la rupture d'Henri VIII, enfin la brisure avec l'Église catholique, j'aimerais imaginer que les nécromants du pape isolent le Royaume-Uni dans les limbes. Donc le Royaume-Uni serait coupé du réel tel qu'on le connaît, à l'exclusion de l'Irlande, profondément catholique, qui permettrait une sorte de passage entre le monde et les limbes. Donc l'Angleterre se retrouverait dans les limbes. Et j'aimerais justement imaginer que l'Angleterre étant coupée du reste du monde, mais pouvant être à tout moment attaquée par le monde, donc ça posait problème parce que les limbes, le temps n'évolue pas de la même façon. On aura peut-être envie de se suicider, donc il faut imaginer des chambres mortuaires permettant peut-être d'échapper aux limbes, on ne sait pas. Et j'aimerais imaginer justement que ce fameux Lord Strange, entouré d'autres personnages comme John Dee, Francis Bacon, etc., essaie de dégager l'Angleterre de ses limbes, sachant en plus que une chose qui m'a beaucoup intéressé en relisant l'Enfer de Dante, c'est, j'avais complètement oublié que dans l'Enfer de Dante, il est question d'anges neutres, c'est-à-dire d'anges qui n'ont pas participé au combat primordial entre les bons anges et les anges plus tard déchus. Et donc j'aimerais travailler sur ça. Et justement, l'idée, c'est, bon, globalement, ce serait un contexte non pas de fantaisie, mais de science et de magie, puisque le moyen qui serait développé par John Dee, Bacon et toute la bande, et Lord Strange, serait un moyen alchimique de s'en sortir. Et donc, volonté d'échapper à la religion par, en tout cas, pour les effets de la religion par des machines alchimiques.
Merci. Et est-ce que la Vénus anatomique du roman éponyme que vous avez écrit peut être considérée comme une machine alchimique?
La Vénus elle-même, l'automate, peut-être pas, parce que ce sera un peu long à expliquer, mais le monde de la Vénus anatomique n'est pas exactement notre monde. Les lois physiques ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, certains personnages, comme par exemple Pierre Moreau de Maupertuis, font une espèce de mélange entre science et alchimie, tout à fait.
Merci. Alors Xavier Mauméjean nous a, en fait, nous a indiqué plutôt un de ses projets, à part la Vénus anatomique, un projet de machine alchimique. Et alors, du coup, Lev, est-ce que vous avez dans vos projets d'écriture quelque chose qui inclurait une machine alchimique?
Well, the only thing I've got, let's say, you know, so much of the alchemical project, it is, it poses challenges for the novelist. For example, you know, one of the reasons why alchemy was often punished in England in Newton's time was because there was concern on the part of the king that if Newton were able to create the Philosopher's Stone, which he devoted a lot of his time to doing, the consequences for the British and sort of pan-European economy would be disastrous because gold would be massively devalued. That's what the currency was based on, as Newton would have known since he was master of the mint. Of the mint, you know, minting coins.
Alors, l'un des aspects du projet de l'inclusion de l'alchimie dans un projet de fantasy est un peu particulier, puisque en fait l'une des raisons pour laquelle l'alchimie a été beaucoup punie, ou en tout cas a été très réprouvée au Royaume-Uni, c'était en fait que le roi, tout simplement, avait assez peur qu'en fait, durant l'époque de Newton et pour les travaux de Newton, que si Newton venait à vraiment créer la pierre philosophique, en fait, pour l'économie pan-européenne, il y aurait une vraie chute, puisque toute la monnaie et l'économie étaient basées sur l'or. Et donc, du coup, en autorisant d'une certaine manière l'or à être dévalué par les propriétés alchimistes, bien, du coup, ça a créé en fait une crise économique à cette échelle. Et donc du coup, c'est quelque chose dont Newton avait totalement conscience, puisque lui-même travaillait en fait à la création des, de la monnaie.
Which is an example of why alchemy, almost because it's so powerful, poses a lot of problems to the novelist purely on the level of world building. If you've got people creating arbitrary amounts of gold or living forever, whole aspects of your world start falling apart, and the novel becomes about that, as opposed to, I don't know, whatever it is you're trying to, whatever people falling in love or whatever else you're trying to tell a story about. So it creeps in around the edges. There is, in fact, somebody in the magicians who creates the universal solvent. But he hides it. He doesn't tell anybody about it. He keeps it suspended so it doesn't touch anything and dissolve it. He just... he has it for his own private use, but it's a restricted technology.
D'une part, si l'alchimie en fait est si puissante, c'est aussi que ça pose beaucoup de problèmes d'un point de vue d'écriture. C'est-à-dire que si subitement, pour constituer un univers, il faut prendre en considération le fait qu'il y a des importantes sommes d'or qui peuvent en fait apparaître de manière aléatoire ou que les personnes puissent vivre de manière éternelle, subitement le roman s'intéresse plus à ça qu'à autre chose. C'est plus tellement à propos de, j'en sais rien, créer des personnages qui tombent amoureux ou qui traversent le monde. Subitement, ces aspects-là prennent le devant sur l'histoire. Ceci étant dit, dans mon livre, The Magicians, quelqu'un en fait crée le solvant universel et le cache. Il le dissimule et le dit à personne, c'est-à-dire qu'il le suspend pour que ça ne dissolve aucun de ses contenants et ne l'utilise que pour son travail, enfin que pour personnellement et en fait le dissimule pour le reste.
Merci. Alors maintenant, vous nous avez parlé un peu des machines alchimiques dans votre œuvre. Ou de celles que vous envisagez d'introduire dans de futurs projets. Et alors j'aimerais savoir s'il y a des machines alchimiques qui existent dans d'autres œuvres que vous auriez aimé inventer ou qui vous ont inspiré.
I think the alethiometer in the Golden Compass, in fact, that is the Golden Compass of the title. I think that qualifies fairly well as an alchemical machine. It certainly has that air of prophecy about it, and that very alchemical type symbology that it uses.
Je pense que la boussole d'or du roman éponyme, en fait, est pour moi vraiment une idée alchimique, un procédé alchimique. Et je pense que toute la symbolique autour de cet objet est vraiment dans une idée à la fois prophétique et alchimiste.
Pas proprement parler telle ou telle machine alchimique, mais je me souviens d'un superbe cycle de Gregory Case qui imaginait que l'Europe puis le monde au final était déchiré par Descartes et Newton qui s'affrontaient sur deux plans, la science et l'alchimie. Et plus que tel objet, oui, effectivement, c'était une très belle œuvre à résonance alchimique, Gregory Case.
Merci. Donc tous les deux, vous vous intéressez visiblement à l'alchimie. Donc j'aimerais savoir si c'est d'abord parce que vous aviez un intérêt personnel pour l'alchimie, que vous avez travaillé ce sujet et que du coup vous avez été amené à écrire des fictions qui incorporent des éléments alchimiques, ou bien est-ce que c'est parce que vous vouliez créer de la fantaisie et que l'alchimie est tellement centrale que du coup vous avez fait le travail de documentation?
Alors non, moi je m'intéresse pas particulièrement à l'alchimie en tant que finalité. C'est plutôt un moyen ou un intérêt ponctuel pour tel ou tel projet. Mais par exemple, pour élargir un petit peu, l'alchimie est présente, mais là aussi pas forcément en premier plan, mais chez des créateurs dans les comics, par exemple, chez Grant Morrison ou chez Warren Ellis, chez Alan Moore, évidemment, elle est présente au moins comme moyen. Mais je pense même que Warren Ellis et Grant Morrison sont vraiment intéressés et eux spécialistes de l'alchimie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, me semble-t-il, l'alchimie, c'est glamour parce que il y a une beauté des symboles et comme c'est une fausse science ou une science qui n'a pas abouti, en tout cas, justement par ses défauts, elle permet d'imaginer tout ce qu'on veut. Parce que comme elle n'est pas cadrée par des résultats et par une avancée proprement scientifique, eh ben on peut, dans la symbolique de l'alchimie, l'alchimia, on peut imaginer ce qu'on veut. Et moi, ce qui m'amuse et m'intéresse, c'est la résonance chez les auteurs anglo-saxons dans les comics de l'alchimie, mais à titre de symbole, et pour en faire quelque chose, pas en soi.
What's interesting, one of the things that you have to do writing fantasy now, and this wasn't always the case, is magic has to have a history. It exists in time, and it needs to be part of a tradition. This wasn't always true when Tolkien created, you know, Gandalf. He didn't have to go to school. Gandalf didn't go to school for magic, and he didn't even necessarily learn his magic from anybody else. He was always magical. But now, when you're creating a world with magic in it, you need to have that as part of it, that history. And inevitably, if you're writing about magic and giving it a history, the history has to join up with alchemy.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on écrit de la fantasy, c'est un peu différent de ce que l'on avait en fait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit replacer quelque part la magie dans un espace historique et lui créer en fait une ligne historique, une chronologie. Je pense que c'est des choses que Tolkien, par exemple, n'avait pas à penser. Quand il imagine le personnage de Gandalf, il ne l'envoie pas à l'école pour apprendre à se servir de sa magie ou pour découvrir qu'il est un magicien. Il existe comme un être magique et c'est tout. Alors que aujourd'hui, de manière plutôt contemporaine, on doit en fait, d'une certaine manière, justifier de l'apparition de la magie et de la replacer dans une histoire, et cette histoire joint ou croise nécessairement l'histoire de l'alchimie.
And the other thing I would say is the same way in science fiction, we have, in English we call it technobabble. I don't know what the French equivalent would be, but any language that sounds cool and authoritative. But you don't know exactly what it means. Fantasy, you've got the same equivalent. You're very hungry for words that sound powerful, symbols that appear powerful, to which that imply hidden and forbidden knowledge. And nothing else gives you like that, quite like alchemy. It's a real gold mine.
Et également, quand on parle de science-fiction, quand on crée en fait un langage dans la science-fiction, on parle de, je sais pas, de techno-blabla, enfin n'importe quoi qui ait l'air cool et qui ait l'air de fonctionner, d'être puissant. En fait, on a recours à la science d'une certaine manière pour pouvoir créer ce langage. Et du côté de la fantasy, pour avoir à quelque chose d'équivalent, pour avoir une espèce de source en fait, mais presque infinie, de mots, de symboles puissants, l'alchimie en fait est vraiment une mine d'or.
Merci. Alors justement, ça me permet de passer à la question suivante, puisque donc vous faites en fait vous présentez en tout cas en partie la fonction de l'alchimie en fantasy comme du technobabble. Ça pose, me semble-t-il, la question de la documentation et de la référence. Donc, est-ce que vous avez, quand vous avez décidé d'écrire des livres qui font intervenir la magie, l'alchimie? Est-ce que vous êtes allé lire des textes alchimiques ou est-ce que vous avez des textes de référence? La question s'adresse aux deux.
Oui, mais c'est pas propre à l'alchimie. Les références sont celles que j'ai pour moi. moi, en ce qui me concerne, que j'évoquais tout à l'heure. Mais je pense que Lev Grossman sera d'accord avec moi. C'est l'auteur doit se documenter. C'est pas tellement l'objet qui va décider qui va se documenter. L'auteur se documente. Il va pas se planter. Par exemple, un détail tout simple. Lorsque j'avais écrit un roman qui se passait à Babylone en 600 avant notre ère. Le héros, j'avais tout le plan de Babylone, probable, le plan probable. Donc le héros rentre chez lui et là il retrouve sa femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'embrassent? Il m'a fallu 3 jours pour savoir si les Babyloniens s'embrassaient. Donc si on se documente éventuellement pour un baiser, il va de soi qu'on va se documenter pour l'alchimie, mais on va se documenter pour n'importe quoi. Si ça se passe sur un porte-avions de nos jours, si ça se passe dans une cellule éco-terroriste dans les années 80, on va se documenter. Et je pense pas que ce soit l'alchimie elle-même qui génère plus de documentation qu'autre chose. Moi, je me rappelle, par exemple, m'être documenté sur comment il faut carreler une salle de bain. Voilà. Et comme c'est pas vraiment mon truc, j'y ai passé un temps fou. Voilà.
Merci.
At the risk of revealing trade secrets, yes, I have a little library of histories of magic, which very much include alchemy. Again, you're looking for the language, the language of power, the language that describes some of these invisible effects that you want to describe in your own work. And alchemy, just linguistically, as a creator of technical terminology, they were very good at it. And I'll also add that alchemy, it has a curious quality in that it crosses from west to east. There's a powerful Islamic body of knowledge in alchemy. And if you want to, go beyond Europe, basically, and not be just homogeneous about it. You can use alchemy to kind of cross borders and get a sense of how people viewed magic and magical power in other cultures.
Alors, au risque de révéler mes secrets d'auteur, oui, j'ai effectivement une bibliothèque avec des ouvrages qui réfèrent à l'histoire de la magie, et notamment l'alchimie. Et je pense que c'est en fait une source très importante d'inspiration, parce que quand en fait on essaie soi-même d'écrire des œuvres qui impliquent un langage de la puissance, du pouvoir ou des effets invisibles qui peuvent avoir trait à la magie ou à l'alchimie, je pense qu'effectivement l'alchimie, même linguistiquement, syntaxiquement, est une source d'inspiration et nous permet vraiment de créer un langage qui s'y adapte. Et autrement, en fait, l'alchimie, c'est aussi une science qui a traversé, en fait, d'Occident vers l'Orient et d'Orient vers l'Occident, les frontières et les cultures. Il y a, par exemple, beaucoup d'œuvres dans l'islam, en fait, qui font référence à l'alchimie ou, en tout cas, qui travaillent des procédés alchimiques. Et je pense tout simplement qu'utiliser l'alchimie pour pouvoir traverser ses frontières et essayer d'avoir accès à la manière dont d'autres cultures conçoivent la magie est aussi un enjeu quand on écrit.
J'ajouterais juste une petite chose sur l'importance de l'alchimie. Par exemple, la symbolique des couleurs dans le cycle du Graal est une symbolique alchimique. Il y a une valeur donnée par un chevalier rouge, un chevalier noir ou un chevalier vert ont une symbolique alchimique particulière. Vous savez que si le chevalier rouge apparaît, il va y avoir un enchaînement d'événements qui sont liés à la couleur. Et là aussi, on retrouve à telle cause, tel effet. Par exemple, l'épouse de Carl Gustav Jung, Emma Jung, qui était une femme très intelligente, a consacré un ouvrage qui est absolument remarquable sur la symbolique des couleurs dans le Graal et notamment leur valeur alchimique. Et c'est en ce sens-là que l'alchimie, occasionnellement, m'intéresse parce que le fait que ce soit une science morte ou avortée n'empêche pas qu'elle a une formidable valeur symbolique.
Merci. Alors, Lev Grossman parlait à l'instant là de, du fait qu'il y avait que l'alchimie n'était pas seulement une pseudo proto-science occidentale, mais qu'il y avait il y avait eu d'autres zones qui avaient été intéressées par l'alchimie. Et alors, moi, quand j'ai vu le sujet machine alchimique, ça m'a fait penser à un manga donc japonais. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent probablement, qui me semblait être pile poil dans le sujet. Comment ? Voilà, Full Metal Alchemist. Alors bon, peut-être que voilà, je ne sais, j'ai pas demandé avant, mais est-ce que les donc c'est précisément des histoires de machines avec un environnement alchimiste. Donc apparemment Xavier Mauméjean connaît un petit peu. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous auriez quelque chose à commenter sur cette sur ce manga?
No, I'm not familiar.
Je ne connais pas le
non,
manga.
Sinon qu'effectivement, dans Full Metal Alchemist, la techno-alchimie est au cœur du récit, là, pour le coup, et bah, c'est réussi. Enfin, moi, j'ai lu, j'ai pas tout lu de Full Metal Alchemist, mais ça me semblait intéressant. Et effectivement, vous avez raison, il aurait fallu l'évoquer plus tôt. Parce que là, là aussi, dans Full Metal Alchemist, il y a un autre élément important, intéressant qui est abordé, et qu'on n'a absolument pas, me semble-t-il, abordé, qui est que le corps humain, dans l'alchimie, est considéré comme une machine, et défini de toute façon comme une machine, puisque. On parle de machine organique, par exemple, et donc dans ce manga, aussi bien les machines naturelles organiques que les machines artificielles inorganiques sont fusionnées pour le coup. Au 19e siècle, il y avait un ouvrier français qui avait lu mal lu des traités d'alchimie, et c'est une histoire vraie. Hein. Et il avait décidé de se sublimer, c'est-à-dire d'arriver à un état final où il disparaîtrait en quelque chose de plus pur. C'est la notion de sublimation alchimique. Et donc il avait décidé de boire de l'eau, puis de boire l'urine obtenue par l'ingestion de l'eau, puis de boire l'urine obtenue par l'ingestion de l'eau, jusqu'à obtenir son corps. Il y avait les quatre éléments, il y avait l'air, la terre, l'eau et le feu. Le feu, c'était la chaleur corporelle, l'eau, son urine, l'air, je ne sais plus, son souffle, et la terre, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il s'est auto-empoisonné, il est mort, et quand on l'a découvert, il avait de toute l'eau qu'il avait bu et rebu et rebu et rebu, il n'est resté qu'une cuillère à soupe avec une espèce de gelée rouge qui était son urine bu et rebu. Autrement dit, c'était le fait divers sensationnel lié à un mauvais usage de l'alchimie. Ne faites pas ça chez vous et écartez les enfants.
Alors, merci. J'aurais quelques questions.
Oh, de rien.
C'est, oui. J'aurais quelques autres questions à poser, mais peut-être que dans le public, vous avez des questions à poser à nos auteurs. Si vous voulez prendre la parole. Oui, il y a une dame là-bas.
D'accord, oui. Je voudrais savoir quels sont les bons ingrédients à mettre pour créer une bonne machine alchimique ou technomagique. Les bons ingrédients... Je suis à fond. Quels sont les bons ingrédients pour créer une bonne machine alchimique ou technomagique ?
Bah, pas votre urine, déjà. Oui.
It's a good question. I made a point earlier about the, you know, radicalism with which writers like Lewis and Tolkien separated magic and technology. in my writing now, I'm trying to find a way to reconcile the two, to bring them back together. Simply because if you write about magic in the modern world, you can't ignore technology forever. But I haven't solved the problem. I've yet to hit on a convincing way to do it. I think it has to do with cyborganics and clockwork. That's all I can. That's all I can say. Not urine at all. No.
Alors c'est une bonne question. Moi, je pense que en le mentionnant tout à l'heure sur la radicalité avec laquelle les auteurs comme Lewis et Tolkien ont en fait séparé la magie et la technologie, je pense que c'est toujours difficile et c'est un travail que moi j'entreprends d'essayer de réconcilier les deux. Et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qu'on est entre guillemets obligé de faire dans un monde contemporain, parce qu'on peut pas ignorer en fait la technologie aussi longtemps que ça. Donc je n'ai pas de réponse. Je pense que ça se situe quelque part entre les cyborganics et l'horlogerie, mais définitivement pas dans l'urine.
Est-ce que oui, ben peut-être. Ouais.
Oui, c'est bon là. Oui. En fait, je voudrais surtout prendre la parole parce que pour rectifier quelques petites imprécisions qui ont eu lieu là. Tout d'abord, là, du point de vue de l'alchimie, contrairement à ce qui a été dit, alors. Pour tout préciser, je suis pas un illuminé. Hein. Je suis professeur de chimie à l'université. Donc, l'alchimie n'est pas une science, n'est plus une science. Elle n'a pas été complètement abandonnée, vouée aux géomonies comme il a pu apparaître lors de la discussion. Je rappelle que Marcellin Berthelot, qui était membre de l'Académie des sciences, qui est enterré au Panthéon avec sa femme, qui est un des rares chimistes d'ailleurs qui a eu énormément d'impact à la fin du 19e siècle, a passé 10 ans de sa vie à collecter des documents alchimiques parce qu'il considérait, et beaucoup de gens avec lui considéraient, que dans l'alchimie, dans les documents alchimiques, dans les écrits alchimiques, il y avait énormément de matière à réutiliser. La fin de l'alchimie, elle se porte au moment où on considère que la base même de l'alchimie, qui est l'idée d'une substance cosmologique qui va permettre effectivement de faire la transmutation, qui va permettre de trouver la pierre philosophale, en fait c'est la pierre philosophale, à partir du moment où on considère que cette substance-là, qui est la substance cosmique, n'existe pas, et c'est Lavoisier qui commence à le dire, à ce moment-là, effectivement, l'alchimie commence à perdre son impact et se transforme en chimie. La chimie n'est pas une science qui, comme la physique, a subi des bouleversements du type Galilée, du type... C'est une science qui s'est transformée lentement et effectivement, l'abandon de l'idée alchimique initiale lui a permis de se transformer en chimie, mais ça s'est fait très très progressivement et très graduellement pendant tout le 19e siècle. Alors, je voudrais juste dire que dans les machines alchimiques, il y a quand même pas mal d'autres choses. Il y a tout ce qui est effectivement tous les objets, les astrolabes qui étaient effectivement utilisés pour définir les positions des planètes dans le ciel et leur impact évidemment sur la vie humaine, parce que ces machines-là, là aussi l'esprit alchimique était en place, c'était de joindre le macrocosme et le microcosme, de mettre en relation les étoiles, les personnes, d'utiliser la machine humaine comme une représentation du cosmos, etc., etc. Donc il y a pas mal d'autres choses. Et pour finir, ce qui m'a un peu gêné dans cette discussion-là, c'est le mélange qui est fait entre l'alchimie et la magie, parce que c'est pas la même chose. Encore une fois, l'alchimie était consacrée à l'exploration des transformations des corps, y compris le sien, pour faire une substance plus pure. Et ce qui s'est passé historiquement, c'est effectivement, comme c'était un savoir qui devait être caché, il s'est enrichi par des sorts, des pratiques magiques qui se sont accumulées par-dessus, mais historiquement, c'est pas ça. Donc, quand on parle d'alchimie, parlons d'alchimie. Quand on parle de magie, c'est autre chose. La magie, c'est tout ce que tout le monde connaît et qui a été particulièrement bien discuté aujourd'hui. Et je voudrais juste en finir pour dire qu'il y a aussi des bouquins de Charles Straub qu'il faudrait rappeler, dans lesquels il y a effectivement pas mal de choses sur l'utilisation de la technomagie et l'utilisation de la technologie et de l'informatique, de l'électricité à des vues magiques. Mais ça, c'est sur la magie, c'est pas sur l'alchimie.
Alors, merci de ces précisions. Non, Straub, je pense. Est-ce que les conférenciers veulent ajouter quelque chose ou répondre?
Oh, I only say I agree very much with what you said. I think the idea of trying to split alchemy into science and magic, it's very much the 20th century looking back inaccurately on the work that was done by alchemists. It's an artificial separation that we have, but I agree, it's not part of the genuine alchemical work that was done.
Donc oui, je suis tout à fait.
This perception on our part.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, je pense que la séparation entre l'alchimie, de l'alchimie entre science et magie est très probablement le fait du XXe siècle et d'une manière d'observer de manière inadéquate ce qui s'est passé en fait dans l'histoire. Et que je pense qu'effectivement, c'est une séparation artificielle qui ne correspond pas à la réalité de l'alchimie.
Alors, oui, non.
Oui, juste une chose, il faut les distinguer, mais dans la pratique. Par exemple, des gens comme John Dee ou Francis Bacon pratiquaient aussi bien l'alchimie que la magie que la science. Donc, vous avez raison, il faut les distinguer, mais dans un deuxième temps, savoir qu'on peut les combiner. Il y a eu de grands esprits qui se sont adonnés aux trois. Pardon ?
Alors, dernière question à nos deux invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qui n'a pas été posée ?
Dans la vie ou...
Alors non, sur les machines alchimiques, c'est un petit peu plus étroit comme sujet.
Non, moi, c'est...
Ok, donc il est midi, donc je vous remercie de votre attention.
Merci.